dans le livre des psaumes. Alors, vous aviez peut-être déjà défait vos abris de tempo, pensant que on avait un printemps hâtif, mais le Seigneur nous rappelle qu'il est souverain, il enlève l'hiver quand il veut, il le remet quand il veut. Mais les hommes, avec le temps, ont appris à s'abriter d'à peu près tout, de l'hiver. On a conquis l'hiver ici au Québec, aussi rigoureux soit-il. On survit bien, on protège nos voitures et surtout nos personnes. Les hommes ont appris à s'abriter devant des tempêtes, des ouragans. Ils ont appris à construire d'une telle façon leur demeure, à mettre des matériaux qui vont résister aux plus grandes tempêtes. On a des abris nucléaires, des bunkers qui ont été érigés en cas de menace nucléaire, où les hommes pouvaient, parmi les plus grandes menaces, envisager qu'ils pourraient résister. Donc, les hommes ont appris à se réfugier d'à peu près tout, à prévoir à peu près tout ce qui peut les menacer. Mais où pourraient-ils trouver un refuge face au jugement de Dieu? Les abris de l'homme face au jugement de Dieu ne valent rien, ne peuvent rien. Et c'est le propos du psaume 11, où nous voyons que deux hommes ont besoin d'un abri. Le juste pour se réfugier du méchant, mais le méchant aussi a besoin d'un abri pour se réfugier de Dieu, qui protège le juste. Et donc, on va se lever pour lire ce beau psaume de David, psaume 11. « Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Seigneur, merci pour ta parole et nous te demandons humblement, au nom de Jésus-Christ, d'en bénir l'exposition. Amen. Faites-vous asseoir. Voici les trois points pour exposer ce psaume. Le premier point pose un petit peu l'enjeu. Où trouver un refuge? Et pendant que je méditais ce psaume durant la semaine, le problème est évident pour le juste qui cherche un refuge et qui, d'entrée de scène, dit qu'il se réfugie en l'Éternel plutôt que les 20 refuges qui lui sont proposés. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas seulement le juste qui a besoin d'un refuge, c'est le méchant. Et là, ce qui menace le méchant est beaucoup plus redoutable que ce qui menace le juste. C'est le méchant dans ce psaume qui menace le juste, mais c'est le Dieu juste qui menace le méchant. Et donc, le premier point va être un peu plus long que les deux autres, qui pose l'enjeu finalement pour chacun de nos deux hommes. Quel refuge? Où se réfugier? Mais ensuite, on va voir que pour le méchant, ben, il n'y a pas de refuge, versets 5 et 6, et que l'unique refuge du juste, c'est l'Éternel, et on va aborder cette question-là dans l'angle de la justification et de la damnation. Parce que le refuge que l'homme a besoin, c'est d'une justice devant un Dieu juste. Dieu exige une justice parfaite pour pouvoir nous faire voir sa face, pour nous admettre en sa présence. Et cette justice, il nous la donne. Donc, on va voir comment ce psaume nous parle de la justification par la grâce de Dieu, par la foi seule, en Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ vienne, mais déjà par avance, nous montre la justification qui était révélée dans les prophètes de l'Ancien Testament et qui est plus claire encore dans le Nouveau Testament. Donc, avant tout, David affirme sa conviction au verset 1 que l'Éternel est son refuge. Il n'a pas encore posé le problème, posé l'enjeu. Il affirme d'entrée de scène sa conviction « L'Éternel est mon refuge ». Et enfin, il faut être certain, avant que vienne l'épreuve, où est notre refuge. Il ne faut pas attendre que la tempête vienne. Hein? Si tu attends l'ouragan avant de barricader tes fenêtres, il est trop tard. Il faut que tu aies prévu, il faut que tu aies anticipé. Il est où ton refuge? Alors, il y a des moments où on sent qu'on a vraiment besoin de se réfugier en l'Éternel. D'autres moments, on se sent peut-être moins menacé, mais il faut déjà avoir trouvé refuge en lui et qu'il soit continuellement notre refuge avant que vienne l'épreuve, parce que d'autres refuges nous seront proposés. Et si on n'est pas affermi dans la foi, si on n'est pas résolu de se réfugier en l'Éternel, on risque de céder à la tentation. David est le roi selon le cœur de l'Éternel, qui est un modèle du roi juste, qui est à la fois un type du Christ qui va venir, mais qui est aussi un type du croyant par excellence, qui croit en Dieu et qui ne se confie pas dans ses armes ou dans son armée ou dans un pouvoir étranger pour le secourir, mais en l'Éternel. Mais parmi les fils de David, certains iront chercher refuge ailleurs qu'en l'Éternel. Ils vont descendre en Égypte pour aller chercher du secours lorsque l'Assyrie va les menacer. Ou aller en Assyrie pour chercher du secours lorsque une coalition entre les Syriens et les Éphraïmites va se faire au temps d'Akaz. Et Isaïe va aller dire, mais pourquoi est-ce que tu cherches le secours parmi les hommes? Tourne-toi vers l'Éternel, c'est lui ton secours. David se fait proposer d'autres refuges. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Cherche refuge dans ces montagnes. Va te cacher où l'ennemi ne pourra pas te trouver. Trouve refuge dans ces montagnes qui sont sûres, comme l'oiseau qui se réfugie dans les montagnes. On n'est pas certain qui lui propose cela comme refuge. Et j'avoue qu'après avoir lu les différents commentaires cette semaine, je demeure un peu indécis. Les deux grandes propositions, c'est soit que ce sont ses amis qui lui dit « Fuis dans les montagnes, David, comme l'oiseau. » Et c'est la majorité des commentateurs, même depuis les pères de l'Église, qui semblent voir dans cette phrase le conseil des amis de David. Mais d'autres commentateurs pensent que c'est plutôt ses ennemis qui le menacent et qui lui dit « Fuis, dégage, sors de Jérusalem. » On pense avec Absalom, on pense à Saül, devant lequel il a fui. Quel est le problème avec la fuite proposée? Ça semble ici être un problème. David semble dire « Non, je ne fuirai pas. La foi vaut mieux que la fuite. Je vais me réfugier en l'Éternel. » Mais plus d'une fois, David a fui devant ses ennemis. Et ça ne semblait pas lui poser problème à ce moment-là. On le voit à quelques reprises avec Saül qui veut le tuer. Et David s'enfuit. On l'a vu avec les psaumes 3 à 9. Qui sont écrits dans le contexte de sa fuite devant son propre fils Absalom, qui s'est révolté, qui cherche à usurper le trône de son père et qui menace la vie de son père. Il doit fuir. Alors, est-ce que c'est un problème de fuir? Ça ne semble pas avoir été le cas pour les autres fois. Pourquoi ici, ça serait un problème? En fait, c'est que la fuite qui est proposée ici à David, soit par ses amis, soit par ses ennemis, semble oublier Yahweh, l'Éternel. Et chaque fois que David fuit, il le fuit pour se réfugier en l'Éternel. Mais ce qui est proposé, soit par un manque de foi, c'est simplement de trouver refuge dans les montagnes et non pas en l'Éternel, ou soit une menace de ses ennemis qui oublient l'Éternel, ou ses amis qui oublient l'Éternel, qui ne lui proposent pas de trouver refuge. Donc, on peut fuir dans la mesure où dans notre fuite, on cherche le secours de Dieu. L'idée, ce n'est pas de faire une bravade, qu'il faut toujours rester sur place. Jésus va dire à ses disciples, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, « Fuyez dans les montagnes! » Il n'y ajoute pas comme un oiseau, mais il y a quand même un parallèle intéressant ici entre le psaume 11 et la recommandation que Jésus fait. Mais ici, c'est qu'il fuit comme un oiseau sans cervelle, c'est ce qui est proposé, qu'il oublie de se réfugier en Dieu. Or, si Dieu prend soin des moineaux, il prend encore plus soin de ses enfants, et c'est en lui que nous devons trouver principalement notre refuge, et c'est ce qui n'est pas proposé à David. Donc, l'enjeu devant lequel David se trouve, c'est de trouver un refuge. Il y a plusieurs choses qui nous menacent dans le monde. J'ai énuméré des éléments de la nature, des forces de la nature qui parfois menacent l'homme, les ouragans, les tsunamis, les tremblements de terre, qui sont des maux naturels qui sont survenus sur une terre déchue. Mais ici, ce ne sont pas de ces menaces-là, de ces dangers-là dont il est question, mais de la menace des méchants. Un mal moral, la menace d'un monde déchu où le diable est le prince de ce monde et il manifeste son pouvoir parmi des hommes qui ont une nature diabolique et qui sont hostiles aux justes, qui exercent leur pouvoir sur la terre et qui représentent une menace pour le peuple de Dieu. Donc, la menace des méchants. Ce n'est pas la seule menace qui existe, mais dans le psaume 11, c'est la seule menace qui est mise de l'avant et qu'on doit considérer ce matin. Nous vivons au milieu d'un monde de méchants. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans le psaume 10. On est au milieu d'un monde de méchants. Bien, ces méchants sont une menace. Et j'aime comment James Hamilton, ce que j'apprécie de ce commentateur-là, c'est qu'il prend une vue d'ensemble. Il traite chaque psaume individuel, mais il aide à voir comment il y a des regroupements, il y a des familles de psaumes à l'intérieur du psautier. Et c'est utile d'avoir cette vue d'ensemble pour voir comment les psaumes sont connectés entre eux. Il écrit donc que les psaumes 3 à 9 traitent de la révolte d'Absalom, et les psaumes 10 à 14 présentent les réflexions de David sur le type de personne qui s'engage dans la rébellion contre le Seigneur et son Messie, du psaume 2, 1 à 3. Le psaume 2 dit « Pourquoi les nations se révoltent-elles contre l'Éternel et contre son oint? » Son oint, c'est David, ultimement, c'est Jésus. Et tout de suite après, on a la révolte contre l'Éternel et contre son oint avec la révolte d'Absalom. Et les psaumes qui suivent, c'est David qui est dans sa fuite, qui réfléchit à tout ça. Et ensuite, la famille des psaumes 10 à 14 semble continuer dans cette même réflexion de les méchants qui sont une menace pour le juste, qui s'attaquent à loin de l'Éternel, mais aussi au peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que le méchant est une menace pour le juste? Pourquoi est-ce que votre famille non-chrétienne, vos amis non-chrétiens seraient-ils une menace? Le méchant, on a vu, c'est un terme général qui désigne ceux qui ont encore une nature ennemie, qui n'ont pas été convertis, dont le cœur n'est pas circoncis, qui sont encore rebelles à Dieu, qui rejettent sa loi. Ils sont appelés les méchants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont juste remplis de méchanceté, toujours en train d'essayer de faire du mal, de tuer, mais la méchanceté dans leur cœur. Alors, pourquoi est-ce que les méchants seraient une menace pour les justes? Mais parce qu'ils veulent vous tuer. Vous trouvez ça drôle? Le méchant veut tuer le juste. C'est ce qu'on voit au verset 2. Les méchants, voici les méchants, bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Alors, vous êtes menacés, mes frères et sœurs, qui avaient été justifiés par ceux qui n'ont pas été justifiés, qui veulent vous tuer. Alors, c'est sûr que dit comme ça, ça a l'air un peu exagéré. Il n'y a personne qui veut nous tuer, franchement. Mais l'Écriture nous dit que les justes vont connaître des persécutions dans le monde à cause de la justice. Et on le voit dans la première histoire après la chute. On a Caïn, qui est du malin, qui tue Abel, qui est un juste. Et pourquoi le tua-t-il, demande l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3, versets 12 à 13. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et il ne pouvait pas supporter ce verdict de Dieu qui a porté un regard favorable sur le sacrifice d'Abel et pas sur celui de Caïn. Ses œuvres étaient mauvaises et donc il a agi selon sa nature du malin, diabolique. Il a été meurtrier comme son père le diable, qui est meurtrier depuis le commencement du monde. Et il l'a tué. Jésus dit que les prophètes ont été persécutés. Il dit « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de la justice et du royaume. » Quand on vit selon la justice du royaume, ceux qui rejettent le royaume et qui rejettent la justice de Dieu n'aiment pas nos œuvres parce qu'elle les accuse. Elle leur dit « Vous êtes des injustes, des impies qui devez vous repentir. Vous devez croire au même Seigneur que nous, observer la même loi que nous, sans quoi vous êtes perdus. Ils n'aiment pas ça et ils veulent nous tuer. Pour nous, on l'expérimente de manière relative. Ils ne veulent pas forcément nous assassiner concrètement dans notre vie. Quoique, c'est le cas de certains justes qui sont persécutés, qui sont mis à mort pour le nom du Seigneur et pour la justice. Mais pour le seul juste qui a marché au milieu des méchants, écoutez ce qu'il dit. Je parle de Jésus qui est le seul vrai juste par essence. Nous sommes justes par imputation. On n'est pas juste en nous-mêmes, on est juste, on va le voir, par l'imputation d'une justice qui n'est pas la nôtre. Mais Jésus était le vrai juste. Et il dit, Moïse, dans Jean 7, 19, « Ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Tu es un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? » Alors, ils ont eu la même réaction qu'on a. « Ben non, il n'y a personne qui veut tuer le juste. » Mais Jésus affirme que ceux qui ne connaissent pas véritablement la justice, qui n'observent pas vraiment la loi de Moïse, veulent tuer le juste. Et éventuellement, c'est ce qu'ils ont fait avec lui. Ils l'ont tué, ce juste. Ils niaient que c'était leur intention. En fait, ils n'étaient pas encore même conscients du dessein dans leur cœur, de ce dessein diabolique. Mais encore aujourd'hui, on a vu que les desseins meurtriers qui sont dans le cœur ne se traduisent pas toujours par des homicides. Ils se traduisent par des meurtres qu'on commet avec la langue, qu'on commet avec les pensées, avec la haine. La haine est associée au meurtre dans l'Écriture. Donc, c'est dans ce sens-là que le méchant cherche à assassiner les justes autour de lui. Ensuite, le verset 3 nous décrit ce qui est notre expérience concrète dans le monde, moins relative que l'expérience du verset 2, qui menace le juste de mort. Le verset 3 dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Le juste vit dans un monde de méchants. Et le méchant renverse les fondements. Le mot « fondement », « sheit » en hébreu, veut dire « fondation », « principe de base », « l'essence de quelque chose ». Et dans le contexte, ça nous parle des fondations de la société. Le renversement de l'ordre naturel, le rejet des repères moraux que Dieu a établis, que Dieu a fondés, que Dieu a déterminé. Le monde a déjà été interprété par Dieu. On n'est pas dans un monde brut qui doit être expliqué par l'homme. Le monde est déjà interprété par Dieu. C'est lui qui a posé les fondements, qui a donné l'essence et le sens des choses. Mais l'homme, plutôt que d'interpréter après Dieu ce que Dieu a déjà déterminé dans sa parole et dans sa loi, réinterprète le monde comme il l'entend. Rétablit sa loi, sa propre loi. Souvenons-nous de ce qui a séduit l'homme et la femme dans le jardin. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Vous pourrez décider pour vous-même le bien et le mal. Donc, vous serez plus soumis à ce que Dieu a déjà placé comme fondement. Vous pourrez mettre votre propre fondement. La Bible Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, a traduit « Il renverse ce que tu as fondé ». Donc, Dieu a mis le fondement, mais le méchant l'a renversé. Quand les mœurs sont renversées, Dieu a établi clairement une différence entre l'homme et la femme. Mais nous vivons à une époque où les mœurs sont tellement renversées que c'est devenu des notions complètement interchangeables. Les hommes peuvent devenir des femmes, les femmes peuvent devenir des hommes. Et si quelqu'un ose dire que ce n'est pas possible, on va s'attaquer à lui. On va le faire taire. Quand les actes contre nature sont célébrés, les choses honteuses sont plus faites en secret, sont paradées, sont célébrées, sont encensées, sont financées par les autorités. Ce sont les fondements qui sont renversés. Quand le meurtre de l'innocent est enchâssé dans la Constitution, comme ça a été le cas cette semaine en France, où on a dit « le droit à l'avortement » est un droit constitutionnel qui définit même l'essence de ce qu'est être un Français. La vie juste, le sang innocent, Dieu n'aimait pas ça quand son peuple prenait ses enfants et versait le sang innocent pour le donner aux idoles de l'époque. C'est les mêmes sacrifices, mais les dieux ont changé. C'est plus Moloch, c'est plus Astarté, c'est plus Baal, c'est l'autonomie, c'est le féminisme, c'est la liberté, c'est l'argent. Ce sont les dieux modernes qui font que les hommes renversent les fondements pour servir leurs idoles. Quand l'homme devient Dieu pour manipuler la génétique et la science et veut changer les lois et les limites naturelles que Dieu a placées, quand les valeurs traditionnelles sont vues comme arriérées et dangereuses, le juste que ferait-il dans un tel monde? Les fondements sont renversés. Alors, chaque époque connaît, au milieu d'un monde de méchants, des renversements de valeurs. J'ai nommé ceux de notre époque parce qu'on vit aujourd'hui. Mais chaque génération de justes a dû faire face à des méchants. Il fut un temps où la culture des justes était majoritaire. Là, on est un petit peu en minorité et on commence à battre en retraite. Alors, le juste, que ferait-il? Ben, il fait ce qu'il a dit au verset 1. Il se réfugie en son Dieu. Il ne prend pas la fuite comme un oiseau écervelé. Il reste ferme sur son fondement. Il reste ferme à penser les pensées de Dieu après lui. Il garde sa parole. Il a confiance en son Dieu. Mais le juste se rappelle aussi qu'il n'est pas le seul à avoir besoin d'un refuge. Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Le psalmiste ici nous décrit la sphère céleste. Il laisse la sphère terrestre où il regardait la société, les fondements renversés, le méchant qui veut tuer le juste. Et là, il porte ses yeux vers le monde invisible. La sphère céleste où se trouve Dieu. Et il nous dit trois choses, trois rappels à ne jamais oublier, surtout dans les temps de persécution, surtout lorsque les fondements sont renversés. Trois choses à ne pas oublier sur notre Dieu. Un, Dieu est saint. L'Éternel est dans son saint temple. On n'a pas affaire à un Dieu qui change dans sa nature, dans ses standards, dans sa sainteté, à mesure que les générations changent, à mesure que la moralité évolue ou dévolue, Dieu s'adapterait. Dieu est saint. Il est entièrement ce qu'il est de toute éternité. Deuxièmement, Dieu règne. L'Éternel a son trône dans les cieux. Il n'est pas mal pris. Il n'est pas déstabilisé. Il n'est pas tombé en bas de son trône. Il n'a pas cessé d'exercer sa souveraineté et ses droits royaux sur sa création. Sa création est rebelle. Mais l'Éternel règne dans les cieux. Et troisièmement, il examine de près les hommes. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils d'Adam. C'est ce qui est dit littéralement. Et ses paupières sondent, il y a l'idée que les yeux se deviennent, les paupières se rapprochent, comme Carl Dillich, deux commentateurs de l'Ancien Testament, l'expliquent. Lorsque nous observons attentivement une chose ou y réfléchissons, nous rapprochons nos paupières afin que notre vision soit plus concentrée et plus directe, et qu'elles deviennent, pour ainsi dire, comme un rayon traversant l'objet. C'est ainsi que les hommes sont exposés aux yeux qui voient tout, aux regards qui cherchent tout de Yahweh, les justes comme les injustes. Donc Dieu est là et il regarde attentivement, là, imaginez ce regard scrutateur, et il regarde les hommes, il ne les regarde pas passivement. Il ne les regarde pas d'un regard distrait, il les regarde d'un regard pénétrant. Il porte son regard sur tous les hommes, sur l'ensemble des activités humaines. Proverbe 15:3 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Donc Dieu ne fait pas juste regarder son Église, mais il regarde aussi ceux qui ne font pas partie de son Église. Il regarde tous les hommes, les méchants, et les bons. Il est impossible de dérober quoi que ce soit à son regard. Impossible de se cacher de lui. On peut se couvrir du soleil, on peut se cacher de plein de choses, mais on ne peut pas se cacher de l'œil de l'Éternel. Parce qu'il voit au-delà de l'apparence physique. Il voit ce qui est dans le cœur. Écoutez ce que David va dire à son fils Salomon lors de la passation des pouvoirs vers la fin de la vie de David. Il exhorte son fils à craindre l'Éternel et à pas juste observer sa loi superficiellement, en apparence, mais à craindre Dieu en sachant que Dieu voit jusque dans la profondeur de son cœur et de ses pensées. Et tu ne peux pas faire semblant de l'aimer ou d'être un juste. Il voit tout, il sait tout. Il écrit 1 Chronique 28:9, « L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Tu peux tromper les hommes, tu peux donner l'apparence d'être un croyant, de vivre comme un juste, mais tu ne peux pas tromper Dieu parce qu'il voit ton cœur, il voit ta volonté, il voit tes pensées, il sait tout. Et il ne s'agit pas d'une simple conscience passive où Dieu ferait juste le constat de ce que les hommes font, de ce que les hommes disent, de ce que les hommes pensent, de ce que les hommes veulent. Mais c'est en vue d'agir sur cette base-là. Jean Chrysostome, prédicateur à la bouche d'or, c'est ce que veut dire Chrysostome, c'est un surnom, ce n'est pas un nom de famille, écrit « Mais il n'est pas seulement témoin des faits, il veut aussi les corriger. Si en effet il est juste, il ne se contentera pas d'ignorer ces événements, il punit les méchants, il glorifie les justes. » Autrement dit, ce qui se passe ici-bas aura des répercussions éternelles devant Dieu. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le méchant. Si le juste a à craindre dans un monde de méchants, le méchant a bien plus à craindre que le juste. Et c'est le deuxième point, il n'y a aucun refuge pour lui. Versets 5 et 6. « L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant, il abhorre, il déteste le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, la coupe qu'ils ont en partage. » C'est fort comme parole, mais je pensais à ça, je faisais une transposition. Ça nous dit que l'Éternel est comme un père qui a compassion de ses enfants. J'imaginais si quelqu'un osait faire du mal à mon enfant. J'imaginais si quelqu'un violentait, parce que ça nous dit que le méchant est une menace de mort pour le juste. Si quelqu'un assassinait mon enfant, et que c'est moi qui devais être le justicier, qui devais exécuter la justice, j'aurais peu d'affection probablement envers le méchant. Dieu est comme un père qui n'a pas d'affection pour ceux qui attaquent ses enfants, pour ceux qui violentent ses enfants, pour ceux qui kidnappent ses enfants, pour ceux qui enlèvent leurs privilèges, qui enlèvent leurs droits. Parce qu'il y a beaucoup de ses enfants qui sont persécutés dans le monde, puis Dieu ne trouve pas ça drôle. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. On n'est pas beaucoup habitué de parler de la haine de Dieu. On n'est pas super à l'aise non plus. On parle de l'amour de Dieu, on connaît Jean 3,16 par cœur. Dieu a tant aimé le monde. Et là, on arrive avec ces versets-là, puis on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est-il pas censé aimer tous les pécheurs? Aimer les méchants? On était nous-mêmes des méchants, Dieu nous a aimés. Comment est-ce que l'Écriture dit, il hait le méchant, il abhorre, il déteste, il répugne, il dédaigne? Bien sûr, ce sont des langages qu'on appelle des anthropopathismes, où on attribue des passions humaines à Dieu, la jalousie, la haine, la colère, pour qu'on comprenne ces attributs éternels de justice. Dieu n'est pas en train de fluctuer, qui monte, qui descend dans ses émotions comme nous, mais on doit comprendre la justice de Dieu comme quelque chose d'aussi terrifiant qu'une ours en colère dont on a volé les petits. C'est quelque chose de terrible. C'est une colère déchaînée, il n'y a rien qui va l'arrêter. Ben, il faut qu'on comprenne que la justice de Dieu est aussi terrifiante que cela. Maintenant, que dire par rapport à la relation entre l'amour de Dieu pour le monde, et ici il nous est dit qu'il a de la haine. Dans son amour de providence, Dieu aime tous les hommes. Si on considère Dieu dans l'angle de sa création, il est le créateur, et parce qu'il est créateur, il pourvoit, il prend soin, il exerce de la bienveillance, donc il manifeste son amour à toutes ses créatures. On peut dire qu'il aime tous les hommes. Et c'est effectivement ce que Jésus nous enseigne, et il nous dit qu'on doit, nous de même, aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44 et 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On n'est pas autorisé d'haïr le méchant, de prendre les armes contre eux, mais on doit prier, les aimer, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il y a quelque chose de similaire qui est dit aussi dans Actes 14-17, quand Paul prêche chez les païens, puis il leur dit, « Dieu a rendu témoignage en vous dispensant du ciel des pluies fertiles, en remplissant votre cœur de joie. » Donc même la joie des païens, la joie des méchants, leur équilibre psychologique, leur prospérité, ça vient de Dieu. Et c'est un signe de sa bonté et de son amour providentiel pour eux. Mais dans son amour de la justice, quand on considère Dieu, non pas dans l'angle du Créateur qui exerce une providence, mais dans l'angle du juge qui exerce un jugement, Dieu a de l'aversion pour le méchant. Ses yeux sont trop purs pour regarder le mal. Il ne peut pas le tolérer devant sa face. Et ainsi, Dieu fait pleuvoir du ciel deux sortes de pluies sur le méchant. Une pluie fertile, dans sa providence bienveillante, et des charbons de feu et de soufre dans son jugement eschatologique. Le verset 6, qui nous parle du feu du ciel, qui est une référence au jugement final, qui est une référence à la géhenne, à l'enfer, ne fait pas juste regarder vers le futur, mais c'est aussi une référence à l'archétype du jugement final, lorsque Dieu a fait littéralement tomber le feu du ciel, qui était comme un feu éternel, sur des villes de méchants qui persécutaient le juste. Sodome et Gomorre. Et il nous est dit dans Jude, verset 7, que ces villes ont été données en exemple, elles sont un modèle, elles sont un type, l'archétype du jugement final. Archétype veut dire la première figure d'une série de types. Chaque fois qu'il y a un jugement temporel de Dieu, un jugement dans le temps, dans l'histoire, c'est un type. Mais le premier type du jugement par le feu, c'est Sodome et Gomorre. Comme le déluge est un archétype, premier jugement universel, du jugement final aussi. Donc, si on se reporte à Sodome et Gomorre, on lit d'abord qu'Abraham a intercédé pour ces villes. Mais surtout parce que son neveu Lot, qui est appelé le juste, et ce n'est pas parce qu'il avait une conduite si exemplaire, vous vous rappelez, surtout parce qu'il avait la foi. C'est ce qui montre qu'on n'est pas justifié par nos œuvres, qu'on est justifié par la foi seule, que nos œuvres devraient être cohérentes avec notre foi, mais des fois, il y a des petites incohérences, comme chez Lot. Mais Lot le juste, donc, était un croyant qui vivait dans Sodome et Gomorre, qui journellement tourmentait son âme juste à cause de toute l'immoralité qu'il y voyait et qu'il entendait. Et à un bon moment donné, Dieu dit, c'en est assez, il a envoyé ses anges et l'ange de l'Éternel pour exécuter un jugement sur ces deux villes. Et il informe d'abord Abraham, et Abraham dit ceci dans Genèse 18, 23 et 25. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Ça serait injuste de faire mourir celui qui est juste avec celui qui doit justement mourir. Donc, lorsque Dieu envoie la pluie du ciel, la pluie fertile et abondante, dans sa providence, Dieu ne distingue pas entre le juste et le méchant. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 5, 45. Mais lorsque Dieu n'envoie pas du ciel la pluie, mais le feu, Dieu ne fait pas périr le juste avec le méchant. En ce moment, nous vivons dans une providence commune avec les méchants. Mais au jugement final, comme ce fut le cas lors de l'archétype de ce jugement final, en Sodome et Gomorre, il a été dit à Lot, « Sors de cette ville, parce que je ne peux pas faire venir le feu tant et aussi longtemps que tu y es, et va te réfugier ailleurs. » Genèse 19, 24 et 25, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. » Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et, les plantes de la terre. Ainsi en sera-t-il pour tous les méchants de la terre qui rejettent la parole de Dieu. Ces villes sont données en exemple. Le psaume 11 rappelle cet exemple, rappelle ce qui menace le méchant pour l'inviter à la repentance. Pense pas que parce que tu domines présentement, pense pas parce que tu as la main forte qu'il en sera ainsi jusqu'au bout. Dieu dit concernant ceux qui renversent les fondements dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5, versets 20 à 24, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Les méchants qui renversent les fondements, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Il n'y a aucun refuge pour les méchants devant le feu de Dieu. Le seul refuge devant le feu du jugement de Dieu, c'est la justice de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le dernier point, l'unique refuge du juste. David sait que par nature, il est exactement comme les autres hommes. Un pécheur et un méchant. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, dans Romains 3, 10. Et dans les versets qui suivent, elle cite cette section du psaume 10 à 14 pour parler de l'universalité du péché, du fait qu'il n'y a pas un seul juste. Et c'est David qui écrit ce psaume. Psaume 14, 2 et 3. « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, David ne parle pas de lui ici sous l'angle du croyant, mais sous l'angle de l'homme naturel, livré à ses propres capacités charnelles. Il n'y a personne qui est intelligent, qui cherche Dieu, il n'y a personne qui est un juste. Tous sont pervertis, tous sont égarés. David inclus, le prédicateur de ce matin inclus, tous sont perdus, tous sont des méchants par nature. Alors, sur quelle base se présente-t-il comme un juste dans le psaume 11? Comment pavane-t-il en disant « Eux, c'est les méchants, nous, on est les bons. » Et ça choque tellement les non-chrétiens de nous entendre parler de nous comme les justes. Prenez pour qui? Vous êtes mieux que les autres. Vous pétez plus haut que le trou, vous autres. Hein? Pour les Français, c'est une expression commune aux Québécois qui veut dire qu'on se pense meilleur. Alors, sur quelle base sommes-nous des justes? Sur la base de la foi seule, par laquelle Dieu nous impute une justice qui n'est pas la nôtre, qui est la sienne. Et on le voit lorsqu'on relit le verset 1 et le verset 7, le début et la fin du psaume, qui nous montre le refuge du juste. Verset 1, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. » C'est en l'Éternel que je me confie, littéralement. Et si on compare avec ce qu'on a vu dans le psaume 2, verset 12, c'est le même verbe, peut afficher la prochaine. Baiser le Fils, embrasser le Fils typologiquement c'est David, mais eschatologiquement c'est Jésus. S'il n'y a pas l'ultime Messie qui vient, David ne peut pas nous sauver. David, sa justice nous perd, il est mort, puis il est resté mort, il n'est pas ressuscité parce qu'il n'était pas un juste. Mais il va ressusciter comme nous à la fin parce qu'il est justifié. Mais le seul juste, c'est Christ. Et donc, le Fils en question, premier niveau, c'est David, mais l'ultime niveau, c'est Christ. Donc, embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est le même verbe. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est le même verbe en hébreu. Le verbe « chassa ». Il faut que je regarde de proche parce que je suis pas mon hébreu n'est pas terrible. Hein? Qui est traduit ici par « chercher un refuge ». Ou se confier, c'est la même idée. C'est avoir la foi, c'est avoir confiance, c'est trouver en Dieu, en sa promesse. Et la promesse de Dieu pour David, c'est la promesse d'un fils qui est son Seigneur. Un fils qui va régner éternellement et qui va être le Seigneur de David et le Sauveur de David. Donc David croit en l'Éternel et en ce qu'il lui a promis. Il croit déjà dans le Messie à venir. Et en ayant la foi, Dieu lui communique la justice parfaite du juste, Jésus. Comme Abraham qui crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, David crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce qui a été imputé? C'est le Nouveau Testament qui nous l'explique avec le plus de clarté, mais en se basant sur tous ces textes de l'Ancien Testament, Romains 3, 22 à 24. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Justifier veut dire déclarer juste. Non pas rendre juste, parfaitement juste, mais déclarer juste. Tu ne deviens pas un juste parfaitement dans tes œuvres, mais tu es déclaré juste par le verdict de Dieu sur la base de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Christ, tu as une justice parfaite parce que Jésus a payé pour tes péchés et a accompli la loi de Dieu sur la base de laquelle tu peux être déclaré un juste. Donc, quand tu as la foi en Jésus, comme l'avait David, comme l'avait Abraham, par avance ou nous, par après, Dieu prend la justice de Christ et te l'impute. 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Christ, notre justice, c'est à rapprocher des textes de l'Ancien Testament qui parlent de Yahweh, notre justice. Christ, c'est Yahweh, notre justice. Jérémie 23 disait cela, que c'est l'Éternel notre justice, et c'est dans le contexte de l'Alliance davidique, dans Jérémie 23, 5 et 6, que l'Éternel va susciter à David un germe juste, et on va l'appeler l'Éternel notre justice. Philippiens 3, 9, Paul a l'espérance de gagner Christ en rejetant sa propre justice, en abandonnant ce qui était pour lui une gloire. Donc Paul ne se repent pas juste de son péché, il se repent de sa justice. Ma justice est un vêtement souillé qui pue aux yeux de Dieu. J'en ai pas de besoin. Je m'en repens afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient de mes œuvres, celle qui vient de mon obéissance, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, le cadeau que Dieu fait aux justes. Donc, c'est révélé dans l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament révèlent ça. Dieu l'a révélé à Abraham, l'a révélé partout dans l'Ancien, mais c'est devenu encore plus clair dans le Nouveau. Et dans notre psaume 11, on voit au verset 1 où il met sa confiance en Yahweh, qui implique mettre sa confiance dans la promesse de Yahweh qui a promis un Messie, et donc qui se réfugie lui-même dans le Fils dont il est la figure, et qui a la foi dans le Fils comme il a la foi dans le Père, qui va envoyer le Fils. Mais au verset 7, ça nous dit qu'est-ce qu'il obtient par la foi? Il obtient la justice de Dieu, la justice qui procure la vie. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Ce que Dieu est, par essence, juste, c'est ce que Dieu aime, la justice. Dieu n'aime pas une justice à peu près, il aime une parfaite justice. Une justice qui est à la hauteur de ses standards, de sa parfaite loi juste. Et Dieu ne trouve rien dans l'homme qui lui plaît pour le justifier. Pour reprendre la 28e thèse de Martin Luther, mais non pas des 95 thèses qu'il a clouées sur la cathédrale d'Heidelberg en 1517, mais à peu près 7-8 mois plus tard, il y avait un débat à Heidelberg. J'ai dit Heidelberg deux fois, c'était Wittenberg, merci, j'essayais de lire sur tes lèvres, je voyais que tu t'en rappelais, à Wittenberg, mais donc à Heidelberg, là je vous mêle tout dans l'histoire de l'Église, là c'est pas important, il a dit « L'amour de l'homme est causé par ce qui lui plaît. » L'homme trouve dans l'homme, trouve dans la nature, même de ce monde déchu, des choses qui suscitent son affection, qui suscitent ses standards, qui correspondent à ses standards, à ce que l'homme veut. Et Luther ajoute, « L'amour de Dieu ne trouve pas ce qui lui plaît chez l'homme. Il le crée lui-même. Dieu ne trouve rien en nous pour nous justifier. Alors comment est-ce qu'il peut nous justifier? Bien, il crée lui-même dans une forme humaine, dans une justice humaine, parce que ça nous prend une justice d'homme pour paraître juste devant lui comme des hommes. Donc, Dieu devient un homme afin de nous justifier. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir pour notre rédemption. Il est venu accomplir la justice pour qu'on puisse être justifié, pour obtenir la vie. Parce que Dieu est juste. Et parce que Dieu est juste, il aime la justice. Et il n'en veut pas de ta justice. C'est des vidanges, ta justice. Elle ne vaut rien. La seule justice que Dieu aime, c'est la sienne. Le Fils lui plaît. Parce que le Fils est parfait, il fait parfaitement la volonté. Et l'âme de Dieu le Père prend plaisir dans Dieu le Fils incarné, qui est juste. Et quand tu crois dans son Fils, Dieu te donne sa justice. Et il l'offre gratuitement à tout le monde, à tous ceux qui croient. Tu n'as rien à faire. Donc Dieu appelle les méchants. Youhou! Arrêtez, bande d'imbéciles! Arrêtez de vous rebeller contre moi! Vous allez périr sous mon feu! Je ne vous demande pas de produire votre propre rédemption. Je vous donne la justice qu'il vous faut pour avoir la vie et contempler ma face, plutôt que de recevoir ma colère. La même justice qui est la coupe des méchants qui doivent boire jusqu'à la lie et le bouclier des justes qui les justifie. Personne ne va échapper à la justice divine. Certains la reçoivent en héritage comme leur propre justice et d'autres comme la sentence qui les exécute. Mais Yahweh est la coupe du juste comme la coupe du méchant. Psaume 16, verset 5, « L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. » Bien, il est aussi le partage et le calice des méchants, mais d'une autre façon, verset 6 et 7, « Après avoir parlé et décrit le jugement de feu, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste. » Avec sa justice vient une récompense, qui est dit dans le dernier petit bout du verset 7, « Les justes contempleront sa face. » Il est traduit au présent, les justes contemplent sa face, mais c'est un imparfait en grec qui veut dire que l'action est envisagée comme n'étant pas encore complétée. Donc, ça peut être traduit comme un présent ou comme un futur. Et d'une certaine façon, c'est vrai que c'est les deux, parce qu'on contemple déjà la face de Dieu par la foi, mais on va la contempler bien plus lorsqu'on aura revêtu l'immortalité. Parce que ce corps mortel ne peut pas contempler la face de Dieu. C'est la vision béatifique et la bénédiction par excellence. Dans l'Orient ancien, voir la face, c'est un privilège royal que le monarque accorde à ceux qui ont obtenu sa faveur. Quand Absalom a tué son frère et qu'il a dû fuir, David a dit « Il ne verra plus ma face ». Et quand il l'a fait revenir à Jérusalem, il a dit « Il ne verra plus ma face. Il n'a plus ma faveur. » Et puis ça a fini par pousser Absalom à la révolte de ne pas pouvoir voir la face du roi. Bon, il lui a permis de revoir sa face, mais peut-être qu'il faisait un peu la baboune, je ne sais pas. Mais le pécheur ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. C'est ce que Dieu dit à Moïse, « Je veux voir ta face. » Ce n'est pas juste un coucher de soleil, ce n'est pas juste le reflet de la gloire de Dieu dans la création que je veux voir. Je veux voir Dieu. Dieu dit, « Tu ne peux pas me voir et vivre. » Et Paul rappelle ça dans 1 Corinthiens 15, que la corruption ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Il faut que, pour entrer dans la présence glorieuse de Dieu, il faut d'abord revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Parce que l'homme pécheur ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, ça devient l'espérance de la restauration d'Israël. Et les prêtres d'Israël placent cette espérance par le biais de la bénédiction aaronique qui est prononcée. Nombre 6, 24, 26. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Il y a plus là-dedans que simplement la bénédiction providentielle. Ça inclut cela, mais c'est la bénédiction ultime d'être restauré devant la face de Dieu. L'homme et la femme ont été chassés de la face de Dieu. Ils ne peuvent plus retourner. Il y a un chérubin qui agite une épée flamboyante pour quiconque ose se présenter devant Dieu. On a lu dans le texte de la confession que Dieu dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron qu'il n'entre pas n'importe quand, n'importe comment dans le Saint-Sanctuaire parce qu'il va mourir. L'homme ne peut pas me voir et vivre. » Et là, maintenant, il nous est dit qu'on peut entrer librement dans le Saint-Sanctuaire, aussi pécheurs que nous sommes, et que bientôt, nous le verrons face à face. Voir sa face, c'est être sauvé. Psaume 80, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Verset 8, « Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Verset 20, « Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Voyez-vous la notion de salut, de sotériologie liée à voir la face de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus nous dit lorsqu'il ouvre le sermon sur la montagne, qu'il prononce des bénédictions, des béatitudes, il proclame la grâce comme un héros proclamateur qui, pour ceux qui l'ont suivi, il annonce la bonne nouvelle. Pas comment on va mériter, mais quel cadeau nous est donné gratuitement pour avoir cru Christ et le suivre. Heureux les pauvres en esprit, ils vont entrer dans le royaume des cieux. Et il dit au verset 8, Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui ont la foi. Ceux qui ont eu le cœur purifié. Ceux qui ont été lavés par la foi en Christ. Ce n'est pas eux qui se sont rendus purs eux-mêmes. Ils verront Dieu. Donc déjà, vous le voyez par l'œil de la foi. Par les sacrements, la table du Seigneur nous permet de discerner le corps de Christ pour communier avec lui. Par la parole prêchée et toutes les ordonnances qui nous gardent avec ce regard de la foi. Mais nous attendons plus. Nous attendons cette vision béatifique finale à la résurrection. Et elle est promise à tous ceux qui ont été revêtus de la justice de Christ, qui est la justice de Dieu qui nous est donnée gratuitement par la foi. Amen.